Comme nous l'avons vu il y a quelques instants, la situation au nord avec le Hezbollah est extrêmement tendue. Nous avons aussi évoqué les différends importants entre l'administration Biden et Netanyahou. On sent aussi une réelle tension de ce côté-là. On va parler avec notre invité de ce soir, Monsieur Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Meir Masri, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer par la situation au nord. Donc, comme on l'a dit, beaucoup de tensions. Israël a encore reçu beaucoup de roquettes tirées depuis le Liban et revendiquées par l'organisation terroriste du Hezbollah. Israël continue aussi d'attaquer sans relâche le Liban, même la Syrie. Donc on a le Hezbollah d'un côté qui se dit prêt à rentrer en guerre. Du côté israélien, on a Ben Gvir qui affirme qu'il est temps aussi pour Israël de rentrer en guerre contre le Hezbollah. Pensez-vous qu'étendre la guerre sur le front nord est nécessaire ?
D'abord, le Hezbollah ne menace pas d'étendre la guerre ou de faire la guerre à Israël. Il l'a fait. Nous sommes techniquement en guerre aujourd'hui avec le Hezbollah. Et j'ai envie de dire avec l'État libanais, parce que le Hezbollah, il est au Liban et que le Liban est responsable de l'application du droit international. Il y a deux résolutions des Nations Unies émanant du Conseil de sécurité, c'est-à-dire des résolutions contraignantes, qui sont totalement bafouées par l'État libanais, à savoir la résolution 15059 et la résolution 1701, qui exige le désarmement total du Hezbollah, premièrement, et deuxièmement, l'absence de toute présence milicienne entre la frontière internationale entre Israël et le Liban et le fleuve Litani. Zone, par ailleurs, supervisée par la FINUL, qui ne sert absolument à rien, et d'ailleurs, c'est regrettable que ces quelques centaines de fonctionnaires soient rémunérés alors qu'ils ne servent absolument à rien aujourd'hui et depuis déjà plusieurs années, il faut le dire, avec les tunnels que nous avons découverts, avec les casernes que nous avons bombardées, d'être certainement au Hezbollah, avec cette infrastructure terroriste qui existe aujourd'hui au grand jour dans cette région où le Hezbollah n'a pas le droit d'être. Donc c'est quelque chose d'absolument insupportable. Et alors, cerise sur le gâteau, le Hezbollah tire des missiles sur Israël. Le Hezbollah a cherché à s'infiltrer en territoire israélien. Le Hezbollah a tué des Israéliens, des militaires et des civils. Et nous avons en Israël plus de 100 000 déplacés aujourd'hui, des villages et des agglomérations et des villes limitrophes à la frontière. Par conséquent, nous sommes déjà en guerre et je pense qu'il en va de la... De l'image de marque d'Israël, de la force de dissuasion israélienne et de la sécurité des Israéliens. Israël n'a pas le choix. Je pense que tôt ou tard, nous serons en confrontation avec cette milice iranienne, et je dis iranienne et non pas pro-iranienne, parce que son financement est iranien, que ses chefs sont même de nationalité iranienne, et qu'on appelle dans la littérature française le Hezbollah libanais pour la distinguer de la maison mère, le Hezbollah qui est une organisation iranienne. C'est une milice iranienne, c'est un bras armé de la République islamique d'Iran en territoire libanais.
Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, alors c'est vrai qu'Israël et le Hezbollah sont en quelque sorte en guerre, mais Tsahal n'est pas rentré en territoire libanais à proprement parler. Est-ce qu'Israël serait de taille maintenant à combattre le Hezbollah, qui possède quand même une armée et des moyens de guerre assez conséquents, peut-être même plus que le Hamas? Donc est-ce qu'Israël pourrait s'engager dans une telle guerre?
La question n'est pas militaire, elle est avant tout politique. La question n'est pas de savoir si Tsahal est en capacité de le faire. Bien sûr que oui, mais la question est de savoir quelle sera la position des États-Unis, quelle sera la position des alliés d'Israël dans le monde et dans la région. Et c'est ça en réalité la véritable question.
Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'on n'a pas le choix et que tôt ou tard, il va falloir entrer au Liban. Une incursion terrestre est, de mon point de vue, imminente et indispensable si rien n'est fait pour désarmer le Hezbollah ou en tout cas l'éloigner de la frontière nationale. Il y a une zone tampon, cette zone. Nous avons fait la guerre, je signale que la guerre de 2006 a éclaté. Et que l'un des justement à cause de la présence du Hezbollah dans cette zone, et que l'un des objectifs de cette guerre, l'une des réalisations majeures de cette guerre, ça a été d'éloigner le Hezbollah au-dessus du fleuve Litani. Ça veut dire en gardant cette zone tampon de 40 mètres de profondeur aux mains de l'armée libanaise et supervisée par la FINUL. Or l'armée libanaise n'y est pas, soi-disant parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'Arabie Saoudite a proposé d'acheter des armes à la France pour rendre l'armée, pour l'armée soit en capacité d'occuper cette zone. Le Liban a refusé de recevoir des aides, alors que c'était gratuit. C'était même pas des emprunts, c'était totalement gratuit. Le Liban, sous la pression du Hezbollah, a refusé, tout simplement parce que le Hezbollah tient, et on le comprend, à être plus fort que l'État, que l'armée libanaise régulière. Oui. Et donc c'est une situation qui est inédite, il faut le dire, et je ne vois pas comment on pourrait résoudre ce problème. D'une manière non coercitive. Alors le Hamas, toute cette infrastructure, ça représente peu par rapport à ce dont dispose le Hezbollah. Oui, le Hamas, avec toutes ses capacités de nuisance, a été sous blocus pendant 17 ans. Le monde de Gaza a été sous blocus pendant 17 ans. Le Liban n'est pas sous blocus. C'est open bar. Les armes arrivent via les ports, l'aéroport de Beyrouth. Elles sont acheminées à l'Iran. Donc si rien n'est fait, la capacité de nuisance du Hezbollah va être encore plus importante, et je pense qu'il est vraiment temps de prendre des mesures radicales, parce que le problème est extrêmement radical.
Alors vous venez de dire que cette incursion terrestre, excusez-moi, est inévitable et même nécessaire au Liban. Est-ce qu'une ouverture de front sur le nord influencerait la guerre actuelle qui se déroule sur le front sud à Gaza, et de quelle façon ? Pour Israël, je parle bien sûr.
Alors, si on peut poser la question, il y a quelques mois, j'aurais dit oui, mais là, aujourd'hui, la situation dans le Nord n'est plus vraiment liée à la guerre en cours dans la bande de Gaza. Parce que le Hezbollah est complètement devenu hors contrôle dans la zone, l'ancienne zone de sécurité, la zone tampon. Le Hezbollah refuse de céder ce qu'il considère être des acquis, ça veut dire les positions qu'il occupe désormais dans cette zone limitrophe à Israël. Et puis, il faut le dire, et j'ose le dire, oui, il y a des États dans la région, les pays des accords abrahamiques, qui ne verraient pas d'un mauvais œil une incursion terrestre en territoire libanais. D'ailleurs, on le sent oui. dans les communiqués, lorsque des combattants du Hezbollah sont éliminés par Tsahal, ils ne sont pas appelés shahides, ce n'est pas des martyrs. C'est des combattants tués, tout simplement. Donc on voit vraiment que même la terminologie employée par les médias officiels, et ce ne sont pas des démocraties, donc il y a vraiment une terminologie officielle, et dans les médias officiels, c'est le message gouvernemental qui règne. Et on voit bien que la position est complètement différente. Parce que le Hezbollah, alors autant pour le Hamas, on peut discuter, parce que c'est vrai que derrière lui, il y a l'Iran, mais il y a aussi le Qatar, il y a aussi la Turquie, il y a aussi les Frères musulmans, et il y a aussi, d'une certaine manière, une autorité palestinienne qui joue double jeu parce qu'elle refuse de condamner le Hamas, parce qu'il y a en arrière-plan cette cause palestinienne, etc. Et l'idée que la bande de Gaza reste sous blocus et que les Palestiniens n'ont pas d'État, etc. etc. Donc il y a toujours ces arguments-là ou ces prétextes qui sont soulevés. Alors que pour la question du Hezbollah, elle est beaucoup plus simple. Le Hezbollah est une milice iranienne au Liban, et c'est une menace pour Israël, mais pour aussi d'autres pays. Les agents du Hezbollah ont commis des actes terroristes dans plusieurs pays du Golfe. Le Hezbollah a combattu les alliés des Saoudiens et des Émiratis en Syrie et a soutenu le régime de Bachar el-Assad. Le Hezbollah a entraîné des éléments houthis au tout début de la guerre civile yéménite. Et les houthis, c'est l'ennemi numéro un de qui ? De l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc la configuration est totalement différente de mon point de vue pour ce qui concerne le Hezbollah.
Alors, Meir Masri, on va maintenant parler des tensions entre l'Amérique et Israël. On change un peu de sujet. Les États-Unis, qui, je rappelle, sont les amis les plus fidèles d'Israël depuis le début de cette guerre, on sent vraiment les différences s'accroître entre les deux parties et le ton monter, des différences d'opinion, des différences dans les stratégies militaires, enfin dans les stratégies de guerre. Pensez-vous que les États-Unis lâcheraient Israël en cas de refus de coopérer selon leurs exigences ?
Non, lâcher non, parce que après tout, les relations, aussi tendues soient-elles, entre Washington et Jérusalem, restent des relations avant tout entre, non pas seulement entre chefs des exécutifs des deux pays respectifs, mais entre administrations, entre services. Et de ce point de vue-là, rien n'est affecté. Les États-Unis sont l'allié principal d'Israël. Et Israël est également l'allié principal des États-Unis. Donc, c'est une relation qui est totalement réciproque. Je suis quand même étonné de ce qui vient de se passer. D'abord, je trouve qu'il y a une contradiction dans la position américaine qui, d'une part, réitère l'objectif stratégique de la guerre, qui est le démantèlement du Hamas. Pas plus tard que la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a répété. L'objectif reste, demeure la destruction totale du Hamas et le démantèlement du Hamas dans la bande de Gaza. Mais en même temps, il bloque, il refuse de coopérer, de rendre possible ou de faciliter la tâche à Israël pour l'entrée dans Rafah. Alors, Rafah, c'est le dernier bastion du Hamas. Et si on n'entre pas à Rafah, le Hamas reste. Le Hamas reste et donc c'est problématique. Deuxième élément qui est quand même assez étonnant, voire même surprenant, c'est que le président américain et l'administration américaine d'une manière générale reproduit, répète les chiffres du Hamas concernant le nombre de victimes à Gaza, 30 000. Or, je signale ici que ce chiffre n'est pas du tout authentifié, que ce sont les chiffres du Hamas. Il n'y a pas de nom, ça ne correspond pas à des noms. Plusieurs des massacres prétendus, nous avons prouvé qu'il y a eu beaucoup moins de morts que ce qui a été
rapporté,
comme à l'hôpital Al-Ahli, où ils ont prétendu qu'il y a eu 500 morts, ça n'en fait rien vérifier du tout. Nous avons démontré, là, l'AFP d'ailleurs l'a également, dans un communiqué, avait dit qu'il y avait entre 50 et 60 morts, donc il y a quand même une différence énorme. Deuxième élément, il n'y a pas de nom, hein, parce que nous en Israël, lorsqu'on a des attentats, par exemple, on publie les noms des gens qui ont été tués ou des disparus. Il y a des noms, ces gens. Or, le Hamas ne présente pas de noms. Il y a des noms, oui, mais les noms n'arrivent même pas à 15 000. Donc on est à la moitié des 30 000. Ces noms, à supposer en plus qu'ils soient vrais, que ça correspond à des personnes réelles et qui sont encore en vie, mais même si c'était le cas, on est à 15 000. D'autre part, il y a selon Tsahal 13 000 terroristes neutralisés à Gaza jusqu'à présent, et ça correspond également à la réalité puisque des brigades entières du Hamas ont disparu, totalement disparu.
Oui.
Et le Hamas prétend avoir 40 000 combattants. Et donc on sait que beaucoup ont été tués. Et sans compter, bien sûr, les 1500 que nous avons neutralisés en Israël le 7 octobre et dans le matin du 8 octobre.
Donc ces 15 000, il y a quand même pas mal de terroristes.
Dans ces 15 000, il y a du monde, je veux dire. Lorsque le président américain dit « Ah, il y a eu 30 000 victimes et on ne voudrait pas qu'il y en ait 30 000 d'autres », c'est quand même...
C'est
choquant. Moi, ça m'a beaucoup choqué.
Oui, c'est vrai que les États-Unis ont une position assez contradictoire. Ils expriment à chaque fois des opinions un peu différentes, sans vraiment prendre parti. Enfin, si, on sait qu'ils prennent parti pour Israël, mais sans vraiment se mouiller totalement et en acceptant cette incursion à Rafah. Alors, quel est l'impact que ces tensions peuvent avoir sur la guerre entre les États-Unis et Israël ?
Eh bien, l'impact, c'est que la guerre prendra plus de temps. Et plus de temps, ça veut dire plus de misère, ça veut dire plus de souffrance pour les Palestiniens à Gaza, et ce qu'Israël ne souhaite pas, parce que l'objectif n'est pas de se venger ou de punir les populations, la population gazaoui, bien au contraire. L'objectif est de mener une guerre rapide, efficace, et de mettre un terme au pouvoir du Hamas le plus rapidement possible.
Et de ramener les otages.
Et puis, si vous me permettez quand même un élément qui est fondamental, c'est que aucun des pays arabes qui demande un cessez-le-feu ne souhaite vraiment un cessez-le-feu. Parce qu'un cessez-le-feu, ça veut dire quoi ? Alors là, une trêve humanitaire temporaire, ça c'est autre chose. Là, on pourrait être pour à condition que ça ne serve pas les intérêts du Hamas et que ça contribue à la libération de tous nos otages. Mais un cessez-le-feu, ça veut dire la fin de la guerre. Alors la fin de la guerre, ça veut dire que le Hamas reste encore sur une partie de la bande de Gaza. Donc le Hamas n'a pas perdu et donc ça veut dire qu'il a gagné. Ça veut dire également que l'axe iranien va se renforcer dans un de ces bastions dans la région, une des zones sur laquelle ou dans laquelle il a beaucoup investi. Et je pense pas qu'aucune de ces capitales, peut-être excepté le Qatar, ne soit favorable à de telles conséquences. Donc je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde. Et je reste convaincu qu'une victoire sur le Hamas nous rapprocherait davantage des pays du Golfe et contribuerait à un élargissement plus rapide du cercle de la paix abrahamique dans la région. Parce que la valeur d'Israël aux yeux de ces pays, c'est avant tout le fait qu'Israël est un acteur majeur dans la dissuasion de l'axe iranien dans la région. C'est là également en réalité la force d'Israël. Et donc reculer, c'est ça n'est pas se renforcer politiquement, c'est s'affaiblir et s'isoler. Gagner cette guerre, c'est sortir de l'isolement. C'est ça en réalité la véritable équation.
Sans, merci beaucoup pour cette interview.
Avec plaisir.
On espère vous retrouver très très bientôt sur les ondes de Canon Français. Encore merci. Bonne soirée.
Au revoir. Bonne soirée.